জিনু কথা তো বলে যাবে চলে হ
Bonsoir, ville province de Kinshasa, plusieurs communes de la ville font face à des bandes de délinquants communément appelés Kuluna qui attaquent et terrorisent quotidiennement les paisibles citoyens. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment y remédier? Trois invités participent à cette émission, ils sont tous avec moi dans ce studio. Professeur Kamba Iboacha, professeur à l'Université Pédagogique Nationale et spécialiste en histoire des mentalités. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Professeur Jean-Paul Yaouidi, doyen de la Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation de l'Université Pédagogique Nationale UPN. Professeur Yaouidi, bonsoir.
Bonsoir.
Alki Tengue, analyste, stratège et président de la Fédération Nationale de Karaté. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Et vous, comme quatrième invité, vous nous avez déjà envoyé vos réactions. Augustin Caïndo-Mouessi de Liège en Belgique. Qui n'est pas exclu que le chômage, la pauvreté urbaine et même les manipulations politiciennes expliquent partiellement la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, on peut se poser la question de savoir si les gouvernements actuels ont mis sur pied des politiques publiques d'encadrement de la jeunesse et sur l'efficacité de leur stratégie de sécurisation des personnes et de leurs biens. Eric Simba de Kananga au Kasaï occidental, si on y prend garde, ce phénomène Kuluna se répandra sur toute l'étendue de Kinshasa, car même dans des communes 10 autrefois UP, on retrouve ces délinquants. Je propose la création d'une brigade anti-Ségué et anti-Kuluna qui aura un commandement organisé par des hauts gradés de la police nationale et surtout équipé et budgétisé. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À Kinshasa, des bandes des délinquants dits Kuluna sèment la terreur dans plusieurs communes. Armés de machettes, barres de fer et autres armes blanches, ces jeunes gens n'hésitent pas à blesser et même à tuer les paisibles citoyens, non seulement pour les rançonner, mais parfois pour rien. Selon les quartiers, les uns se font appeler Zoulou, Likonzi, les autres Yakuza ou Armée Rouge. Notez que les noms qui souvent changent d'un quartier à l'autre équivalent souvent au degré de nuisance de ces gangs. Face à cette situation, certains Kinois et même quelques autorités municipales s'inquiètent de l'ampleur grandissante du phénomène dénommé Kuluna. Je vous invite à suivre ce reportage de Michel Kifindangoy diffusé la semaine dernière sur nos antennes.
Il n'est pas bon de se promener avec un sac ou de l'argent sur soi dans certaines rues de Kinshasa. Des bandes de jeunes gens armés de machettes ou d'armes à feu s'organisent pour vous dépouiller. En cas de résistance, ils n'hésitent pas à tuer. Samedi matin, un étudiant de l'université de Kinshasa est attaqué et dépouillé de 200 000 francs congolais non loin de la maison communale d'Engaba. Dans la soirée, une journaliste de la RTNC s'est fait attaquer et dépouiller à Matete.
Il y avait 15 jeunes hommes avec des machettes. Ce que moi j'entendais me disait, laisse les sacs, laisse les sacs, laisse les sacs. Alors j'ai hésité un peu, j'ai résisté, mais je me suis dit, en face de moi, il y a des gens en train de voir, il y a même des policiers, ils ne peuvent pas me laisser tuer quand même, ils doivent intervenir. Après, j'ai entendu les gens qui disaient, cataillé, cataillé. Effectivement, ils coupaient. Ils m'ont coupé aussi à la jambe, au niveau des talons ici, de ma chaise. Ils m'ont poignardé les bouteilles au dos, bras. Ils m'ont vraiment coupé. J'ai résisté, ils m'ont donné des coups au niveau de la nuque. J'ai perdu connaissance, ils ont pris les sacs, ils sont partis avec.
D'où cette inquiétude du bourgmestre de la commune de Lemba. Inquiétude surtout devant l'ampleur de plus en plus grande du phénomène dit Kuluna et de l'impunité de ses acteurs. David Loub.
Les fortunés supposaient être gardés à Makala pour purger sa peine. Et notre étonnement a toujours été de constater que quelques jours après, le monsieur est mis en liberté et il vient même nous narguer à la commune.
David Loub demande le renforcement des capacités de la police et des sanctions exemplaires. Les victimes et membres des familles des victimes sont désemparés.
Merci à Michel Kifindango et en réaction à la recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa, le ministère de la Justice reconnaît cette réalité d'après le porte-parole du ministre. Très souvent, ces jeunes gens arrêtés exhibent des documents qui prouvent qu'ils sont des mineurs. De ce fait, le juge se voit obligé d'appliquer la loi qui interdit l'arrestation des mineurs. Le maître Rufin Louko rassure qu'une étude est en cours pour examiner comment retoucher cette loi. Professeur Kambaï Boitia, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Pédagogique Nationale et spécialiste en histoire des mentalités. Professeur, comment vous expliquez ce phénomène?
Écoutez, il n'y a pas de miracle pour expliquer ce phénomène. D'ailleurs, d'après un plongeon documentaire que nous avons essayé de faire pour trouver l'origine du mot de la sémantique Kuluna, nous trouvons provisoirement, ce sont des pistes, que Kuluna vient de colonne. Colonne, c'est un nom utilisé couramment vers l'Angola, dans les zones minières. Vous savez, les militaires, la police, ou la police de mines, pour aller chercher, pour aller traquer les trafiquants ou bien les creuseurs clandestins, se mettent en colonne, et à ce moment-là, ils poursuivent les gens illicites. Et le mot a fait un transfert, un grossissement sémantique. Et nous voyons ce phénomène, il s'affiche à ça, ces jeunes gens qui sortent de leur vie, ils ont le temps de faire cela. Comment j'explique cela? Il n'y a plus de miracle. La jeunesse se révolte contre le fait qu'ils sont aujourd'hui, ou à leur mieux, ils se comportent comme des gens délaissés pour compte. Le phénomène Kuluna n'est rien autre qu'un phénomène de révolte contre la société. Voilà, ça c'est une des explications, je vais pas monopoliser la parole, mais je vous dis que c'est une réaction contre le fait que ces jeunes gens se révoltent contre le fait qu'ils sont délaissés. Si vous regardez l'âge, à peu près, l'âge de ces jeunes gens, ça vous va à la sortie de la puberté, mais la grosse tranche se trouve à l'adolescence. L'adolescence signifie qu'ils vont devenir grands. C'est le moment où, réellement, où la jeunesse cherche son indépendance. Comment il va trouver cette indépendance quand il se sent orphelin, délaissé? Alors, il réagit. Il réagit en allant chercher la force dans la primitivité sauvage. D'où ce phénomène de Kuluna.
Professeur, ces jeunes sont révoltés. Peut-on déjà parler de la déliquescence de la famille, la cellule de base?
Vous comprenez, n'entrons pas dans le cercle vicieux. Une famille ne peut fonctionner qu'en termes de société. Comprenez, mon ami, en termes de société. Vous ne pouvez pas isoler l'action éducatrice ou bien éducative de la famille de l'ensemble de l'action de l'État. Vous comprenez? De l'État. La famille ne peut que éduquer l'enfant dans un contexte harmonieux de l'État. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas élever un enfant tout seul, vous, famille X, vous prétendez donner une bonne éducation à votre enfant, et l'enfant, à l'âge de l'adolescence, l'enfant dès sa naissance, il appartient à qui? Bien sûr, on dirait qu'il appartient à la maman, au papa et ensemble. Mais après, l'école. L'enfant appartient à l'école. L'enfant appartient à la rue. L'enfant appartient aux amis. L'enfant appartient à l'église. Combien de temps l'enfant reste avec ses parents? Combien de temps? Le matin, et puis après il va à l'école, et après il revient, il dort. Et puis, il doit trouver cette prise en charge de la famille, papa et maman. L'État reprend cette prise en charge par plusieurs phénomènes. Il y a l'école, il y a l'Église, il y a le mouvement de la jeunesse, il y a les scouts, il y a les guides, il y a les saveries, il y a le football du quartier. Vous comprenez, je ne veux pas anticiper les choses, alors arriver là-dessus.
Professeur Jean-Paul Yaouidi, vous êtes doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale. Le professeur Kambaï Boitia parle de la révolte de la jeunesse contre la société. Quel est votre point de vue?
Merci pour l'invitation. En fait, moi je vais dire ceci. Lorsque on nous dit dans la Bible que Dieu créa l'homme, la société congolaise a créé le Kuluna.
C'est pourquoi,
en fait, le Kuluna, c'est une création de notre société congolaise. Le professeur Kambaï Boitia a parlé de l'origine de ces mots en considérant un contexte donné. Moi, je parlerai aussi de l'origine de ces mots en me situant à une certaine époque de l'évolution du monde. En fait, le mot Kuluna, c'est une déformation du mot Ku Klux Klan. En fait, ce sont des néo-nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Ils consistaient constitués en bande de délinquants drogués qui étaient armés d'armes blanches pour détruire, pour blesser, ravager tout sur leur passage. C'était à une certaine époque. En fait, c'est une répétition d'un comportement qui a été vécu ailleurs et nous le répétons dans notre société. C'est pas nouveau. Mais en fait, lorsque nous voulons marteler, mettre l'accent essentiellement sur notre société, nous disons, en fait, comme le professeur Malin Tamba vient de le réaliser, c'est une révolte. En fait, c'est un langage que nous devons lire, non seulement lire, mais comprendre. Qu'est-ce que nous entendons par ce phénomène colonial? C'est l'expression d'un désaccord. C'est une manière, un appel au secours aux adultes pour dire nous sommes dans une situation, nous ne supportons pas notre situation de détresse. C'est aussi une manière de se venger contre cette société qui est en train de ne pas permettre à l'homme qui vit en son sein de s'épanouir. Et c'est ça l'expression de vengeance. C'est aussi la conséquence de ce que les adolescents subissent ou croient subir de la part des adultes. En fait, vous voyez un enfant qui évolue dans sa famille, qui se rend à l'école, il arrive à l'école, on lui dit « Monsieur, tu ne vas pas entrer parce que tes parents n'ont pas payé les frais d'études. » Frustration. Il retourne à la maison, il veut manger, on lui dit « Monsieur, aujourd'hui on n'a pas préparé parce que nous n'avons pas d'argent, les parents, le papa n'étaient pas payés. » Déjà frustration. Puis il sort pour voir son ami, ses amis, pour dire « Écoutez, est-ce que je peux pas voir quelque chose auprès de vous ?» On dit « Encore ici, chez nous, il y a encore des problèmes. » Vous voyez, cette accumulation de frustration ne peut que produire l'agressivité. Parce que une des manifestations de la frustration, c'est l'agressivité. Il peut être soit verbal, soit physique. Mais ces enfants sont là avec les comportements qui ne sont pas leur propre création. Mais en fait, ce que la société veut qu'il soit, il ne manifeste que la volonté de la société. C'est à la société de se remettre en cause. C'est la société qui doit se remettre en cause pour affronter ce phénomène et le résoudre. Nous sommes à ce niveau-là.
Alors, professeur, en revenant sur la définition que le professeur Tambay a donnée, Kuluna, colonne, en référence à l'Angola, vous êtes psychologue, c'est-à-dire ce sont des groupes avec des chefs, des groupes bien harmonieux, bien organisés, avec chacun a des tâches bien précises, professeur.
Ah oui, mais les délinquants, les antisociaux, n'évoluent qu'en bande, parce qu'avec leur caractère, ils veulent bien se mettre ensemble avec leurs agressivités individuelles, de façon à ce que cela puisse constituer leur force. Et lorsqu'ils vont attaquer, c'est pour atteindre, ils ne voient que leur but. Ils ne voient que le but, ils ne voient que l'objet d'attaque. Qu'est-ce qu'ils veulent? Si nous voulons détruire, ils doivent détruire. Si nous voulons arracher les bijoux, ils doivent arracher les bijoux. Si nous voulons partager, ils s'attachent. S'ils veulent tuer, ils tuent. Ils ont des objectifs, ils ne voient que leurs objectifs. Mais ils n'ont pas les sentiments, ce qu'on appelle les sentiments humains. Ils n'ont pas la compassion, ils n'ont pas la pitié. Il ne faut pas attendre Dieu de la pitié, il ne faut pas attendre Dieu de la compassion, parce qu'ils ont déjà trop subi, ils ont enduré. Ils se trouvent dans une situation où ils trouvent que c'est la mort. Parce que la situation de quelqu'un qui est en train de se noyer. Alors.
Al-Kipenge, analyste stratège et président de la Fédération nationale de karaté, nous sommes partis de la révolte contre la société du prof Tambay à l'explosion de l'accumulation des frustrations par le prof Yawidi. Vous, vous êtes également, comme j'ai dit, président de la Fédération nationale de karaté d'O. Plusieurs personnes disent que ces délinquants sont des sportifs qui sont très musclés, qui font peur à tout le monde et qui trouvent, qui prennent le quartier pour le dojo. Ils doivent manipuler leurs biceps, s'il faut que je le dise comme ça.
Merci beaucoup Alain, je suis très honoré dans ce débat et j'ai heureusement la chance d'avoir deux casquettes. Je vais parler du point de vue du stratège et du sportif.
Effectivement.
La première des choses, il faut quand même regarder cette ville. Hein. La ville de Kinshasa paye le prix des turpitudes politiques et économiques. Tout est à Kinshasa. Tout est beau à Kinshasa et rien à l'intérieur. Bien entendu, quelqu'un qui est dans le fond de l'équateur, qui voit à la télévision quand il peut, ou quand il voit quelqu'un arriver de Kinshasa et qu'il vient acheter le café ou le cacao ou les biens qui sont produits à l'Équateur, qu'il lui amène du sel ou qu'il lui amène des habits usagés. En tout cas, la prochaine fois, son rêve, c'est de devenir quelqu'un qui vient de Kinshasa pour exactement faire la même chose. Kinshasa a volé au Bandundu, au Bas-Congo, à l'Équateur, dans les provinces environnantes. Kinshasa est en train de payer le prix. Parce que du coup, tout le monde a rêvé de Kinshasa. Moi, j'ai suivi une chanson de Jibentiana qui parle de Kinshasa, Mbokango, ou quelque chose comme ça. Et quand vous suivez bien cette étude, moi je trouve ça très très profond, c'est que vous comprenez que les gens rêvent de Kinshasa comme aujourd'hui les Kinois rêvent de l'Europe. Un faux rêve. Et de ce point de vue-là, l'urbanisation n'a pas suivi. Nous avons accueilli en désordre dans cette ville des gens qui y arrivent alors qu'il n'y a aucune vocation à les accueillir ici. L'égoïsme politique de Kinshasa, qui a tout pris, parce qu'en fait il n'y a aucune raison que toutes les grandes fonctions administratives de l'État soient à Kinshasa, tous les autres pays du monde déconcentrent l'État, amène les gens ici. Deuxième chose, du point de vue économique, regardez la ville de Kinshasa elle-même, et regardez la Gombe. Tout est à la Gombe. La capitale de ce pays, ce n'est quand même pas la Gombe, c'est Kinshasa. Pour quelle raison l'État est entièrement à la Gombe? Tout ça, ça fait que quand vous regardez les bidonvilles, il n'y a pas d'urbanisation, c'est des cul-de-sac, c'est des avenues qui tombent dans une parcelle, et donc des choses qui rendent la mobilité très difficile. Ajoutez à cela le fait que les critères minimums d'urbanisation n'existent pas, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas de signalisation routière et autres, les gens se conduisent un peu comme ils l'entendent. Dans ce gros désordre qui caractérise ces grands bidonvilles dans lesquels se trouvent les gens entassés les uns sur les autres, dans la pauvreté extrême, les gens, comme on dit, se révoltent. Les gens, ils essaient de trouver un espace d'espoir ailleurs. Et de là, bien entendu, à avoir une explosion d'agressivité, de brutalité comme nous l'avons, il reste que les fonctions régaliennes de la police et de l'armée sont très minime, parce que la police, elle est censée être dissuasive, sinon réactive. Notre police n'a pas un footprint national suffisant. Dans la ville de Kinshasa, il y a des points où il n'y a pas de police. Et quand ils y sont en nombre insuffisant, ils sont sous-équipés, ils sont peu formés. Et donc, nous sommes là dans une société complètement désarticulée. Et là-dessus, ce que nous voyons avec les clowns, c'est exactement ce que nous voyons sur la route. Des gens qui n'ont jamais appris à conduire réellement, qui ne sont pas sanctionnés par un permis de conduire valable, et qui prennent la route et qui font des accidents inacceptables. Ce que nous voyons là-bas, c'est ce que nous voyons également en l'air, des avions qui n'ont répondent à aucune norme, des pilotes approximatifs, et qui font des accidents que tout le monde peut éviter. Et donc nous sommes là dans une société en plein accident. Et donc pour moi, le phénomène Kumuna, c'est un accident supplémentaire, et dire que ces jeunes gens sont des sportifs, c'est deux choses à dire. Lorsque vous regardez trois nations qui dirigent ce monde du point de vue de la performance, c'est la Corée, la Chine et le Japon, caractérisées spécialement par les arts martiaux. Les arts martiaux produisent des citoyens de très haute discipline. Il y a un phénomène spécial dans ce pays et très particulièrement dans cette ville. À l'époque, on a pensé que ne pouvaient pratiquer les arts martiaux que ceux qui ont échoué partout ailleurs. Alain, je suis ceinture noire quatrième dans le karaté, j'ai été le premier champion du Congo, je suis bel et bien ingénieur civil des industries chimiques, j'ai un MBA d'économie et je suis chef d'entreprise après toutes les autres choses que j'ai faites. Donc le sport n'est pas nécessairement la voie
de la violence.
Non, ça n'a absolument rien à voir. Et nous, quand nous enseignons les arts martiaux, par contre, nous apprenons aux gens à se maîtriser. Peut-être bien qu'il y a une coïncidence, il y a un certain nombre de personnes qui abusent de leurs biceps dans cette ville. C'est lié au fait comment ces gens ont été formés et par qui. Et là-dessus, lorsque vous regardez de près, il y a une grosse émission de l'État.
Professeur Kambaye, lorsque Al Kitenge a parlé, disait que Kinshasa payait le prix des turpitudes politiques et Kinshasa économiques et Kinshasa a tout volé au reste des provinces, je vous ai vu aussi positivement la tête avec beaucoup d'énergie.
Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Et nous allons aller plus loin dans cette réflexion de notre ami. Nous avons dit au cours de notre partage, ici, que la fille de la frustration, c'est la violence. Et je vais aller encore plus loin pour dire que l'état de la jeunesse témoigne de l'état de la démocratie. Une bonne jeunesse et la qualité montrent déjà la qualité d'une démocratie. Une bonne police travaille dans une bonne démocratie. Et comme nous l'avons expliqué ici, mon ami, prenons cet ensemble de malfaisance, de nuisance, de la déconstruction, disons carrément,
en termes de responsabilité.
Mais c'est l'État!
Monsieur, avez-vous l'impression, simple impression, que l'État anglais s'occupe de la jeunesse?
Non, écoutez.
À vous de me répondre, vous avez été ministre dans ce pays.
Écoutez, oui, c'est le pays. Nous n'avons pas l'impression, du moins aujourd'hui, que l'État congolais s'occupe de la jeunesse. Nous n'avons pas l'impression que l'État congolais s'occupe des universités. Nous n'avons pas l'impression que l'État congolais s'occupe de l'école primaire et secondaire. Nous n'avons pas l'impression que l'État, la société congolaise mérite une réflexion. Et ce sont les hommes, mon ami, qui font la réflexion. Et tout cela va de pair avec la conception qu'on a de la démocratie. Ce n'est pas cette affaire de gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Bluff.
Mais, professeur...
Démocratie impossible dans un pays pauvre. Démocratie impossible dans un pays où on ne mange pas. Démocratie impossible où on confond les arts martiaux, le karatéka, avec, qui est un sport noble, avec le banditisme. Comprenez? Donc, nous partageons bien sûr, soyons sérieux, il n'est pas difficile de faire le bien, mon ami, est-ce qu'il existe le bien, de faire le bien? Non.
Professeur Jean-Paul Yaouidi, on a suivi dans le reportage de Michel Kikindangoy, des bourgmestres se plaindre. C'est pratiquement l'échec du pouvoir, des pouvoirs publics, comme le dit le professeur Kambay, et c'est quand même assez grave.
Mais c'est un aveu de puissance, d'impuissance. Lorsque c'est lui qui est chargé d'organiser la jeunesse, de s'occuper de la jeunesse dans sa commune, si lui-même s'est plaint, il n'y a plus d'espoir. Et il n'y a rien à espérer dans ce pays, rien à espérer. Et les colonnes, en fait, c'est l'échec de la société, c'est l'échec de l'homme politique. L'homme politique a échoué dans la gestion de son peuple. L'homme politique a échoué. Les colonnes, c'est aussi ce que nous avons déjà dit, c'est en fait une réaction au conditionnement négatif du milieu sur l'individu. Je suis en train d'exploiter cette notion de colonnes dans un de mes cours. Je viens d'ailleurs d'enseigner les questions approfondies d'inadaptation. Je suis en train de finaliser un livre intitulé « Enfant Kuluna, enfant inadapté ». En fait, je suis en train de dire que le Kuluna n'est rien d'autre qu'un inadapté. Un inadapté, c'est celui qui ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il s'écarte des normes établies au sein de la société. Alors, il faut encore aller très loin pour comprendre que dans l'inadaptation, soit c'est l'expression d'une pathologie, soit c'est l'expression, c'est la réaction au conditionnement négatif du milieu. Et le seul conditionnement négatif du milieu, c'est ce que nous venons de vous le dire. C'est question que nous puissions arriver à comprendre que nous devons nous occuper de la gestion de nos familles, nous devons nous occuper de la gestion de nos écoles, nous devons nous occuper de la gestion de notre société. Et s'occuper de la gestion de la société ou de la famille ou de l'école, c'est s'occuper de la gestion des hommes. Et s'occuper de la gestion des hommes, c'est s'occuper de la gestion des enfants en croissance, c'est de s'occuper de la gestion des adolescents, des hommes en croissance, c'est de s'occuper des adultes. Et lorsque on s'occupe de rien, nous ne pouvons que nous attendre à ce désastre. Et c'est un désastre qui constitue un désagrément au sein de l'évolution de notre société. Et c'est ce que nous devons comprendre. Mais les gens qui veulent comprendre doivent chercher des solutions. Mais nous sommes une société sans solution.
Alki Pengue, dans ce pays, il existe le ministère de la jeunesse, sport et loisirs. Souvent, on voit que le sport, hein, on oublie la jeunesse et les loisirs. Je pense qu'il faut éviter de sectoriser la question. Elle est globale. Nous sommes là dans un état complètement désarticulé, nous l'avons dit tout à l'heure. Et le risque que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il est social. Mais il va très rapidement se transformer en risque politique. Et nous allons connaître des perturbations énormes si ça continue comme ça. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, Alain. Vous savez, nous sommes un pays de 2 345 000 km². Nous avons une population entre 60 et 80 millions de personnes, selon les statistiques des uns et des autres. Mais Alain, avec 7 milliards de dollars, même un prestidigitateur ne peut pas faire quoi que ce soit. On ne peut pas payer suffisamment de policiers, on ne peut pas payer suffisamment de militaires, on ne peut pas organiser l'État. Même le ministre de l'Histoire et de la Jeunesse auquel vous faites allusion n'a pas de budget pour travailler. J'ai envie de dire qu'en fait, il faut réinventer de manière globale la communauté congolaise et la manière de vivre ensemble. Il faudrait que ce pays fasse un bond qualitatif
économique et financier pour que nous puissions être en mesure de créer suffisamment de richesses, donner suffisamment d'emplois, afin que même l'État congolais en tant qu'employeur devienne un employeur attractif, parce que progressivement, nous ne pouvons pas y arriver. Nous allons avoir la crise avant que nous n'y arrivions. Et donc, moi, quand j'entends parler du cadre national en tant qu'État, j'ai envie de dire, nous n'avons même pas une nation, nous n'avons même pas un État. On a tendance à regarder les centres-villes, mon ami. Il faut quitter un petit peu Kinshasa et regarder ce qui se passe. Et lorsque nous parlons des Kuluma, la situation est beaucoup plus grave, plus loin on va par rapport à la Gombe. Plus on s'écarte de la Gombe, plus la situation devient grave. Plus l'État perd le contrôle. Donc, j'ai envie de dire que c'est un problème fondamental. Mais sa base est économique. La taille de l'économie congolaise est trop faible par rapport aux réalités. L'État n'a même pas les moyens pour agir. Laissez-moi vous donner deux indicateurs. Je les ai déjà donnés dans d'autres circonstances. L'État angolais, en termes de budget, a 90 fois plus de moyens par tête d'habitant. L'État congolais d'en face a 40 fois plus de moyens par tête d'habitant. C'est-à-dire, si vous regardez l'argent dont dispose Mobutu, le chef de l'État, par rapport à chaque Congolais, nous sommes à 80 fois moins que l'Angola, nous sommes à 40 fois moins que le Congo-Brazzaville. Je ne vois pas de quelle manière un président ou un premier ministre pourrait réellement avoir un plan d'action qui puisse donner des résultats. J'ai envie de dire que c'est une question qui va au-delà de la politique, c'est une question de société. Nous devons réinventer la manière de vivre ensemble. Du temps de Mobutu, ou du temps de l'époque coloniale, la réalité c'est que le pays ne vivrait que sur des très petits îlots. Le reste du pays était tétanisé, gardé dans la peur. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre étape.
Si vous venez de prendre cette émission en cours, sachez que nous parlons de la ville-province de Kinshasa où plusieurs communes de la ville font face à des bandes de délinquants communément appelés Kuluna qui attaquent et terrorisent quotidiennement les paisibles citoyens. Nos invités dans cette émission sont professeur Kambai Boacha, professeur à l'Université Pédagogique Nationale et spécialiste en histoire des mentalités, professeur Jean-Paul Yaouidi, doyen de la Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation de l'Université Pédagogique Nationale UPN, Alkitenge, analyste stratège et président de la Fédération Nationale de Karaté Do. Comment remédier à la recrudescence de l'insécurité causée par les délinquants du Kuluna? C'est la deuxième partie de cette émission. Pour lutter efficacement contre la recrudescence de ce phénomène, l'inspecteur provincial de la police de la Kinshasa, le général Jean de Dieu Leko, propose une solution globale. Il propose que des efforts soient conjugués entre la police et la justice. On écoute le général Jean de Dieu Leko au téléphone de Samuel Kassak.
D'abord, nous avons commencé à cibler les milieux où c'était le plus prononcé. Nous avons remarqué que Kingabwa ainsi que Serembao étaient les points les plus criminogènes. C'est ainsi que, ensemble avec les parquets, avec la justice, au niveau du Conseil provincial de sécurité, nous avons arrêté un certain nombre de mesures, notamment tout celui que nous arrêtons dans ce cas-là, il soit transféré devant l'autorité judiciaire. Donc, au niveau du parquet, que les délinquants soient présentés devant les juges et que les chambres foraines s'organisent de telle manière que les délinquants ou les Kuluma qui ont été arrêtés soient jugés là où il a commis les forfaits. Et ça a une pédagogie auprès des autres qui font voir que tiens, en posant des actes comme ceci, on peut être condamné en tant qu'on les a vécu il y a un certain moment, vous avez dû suivre cela.
Professeur Kambai Boacha a conjugué les efforts entre la police et la justice, mais souvent ces jeunes gens sont arrêtés, on les voit quelques jours après dans la police, on a même suivi le bourgmestre de Lemba, de la commune de Lemba, qui disait qu'il vient nous narguer ici à la commune, conjuguer ces efforts, mais avec quels moyens? Alkitenga a parlé d'un budget faible.
Moi je dois être d'accord avec ce qu'Alkitenga dit, avec ce que mon collègue Yaouidi a dit tout à l'heure, mais je veux dire ceci. Malgré la bonne volonté, je connais le colonel Leko, le général Leko, il a une très bonne volonté, je le vois faire, je le vois travailler, il a le souci, il a le souci, mais le pauvre, excusez-moi le terme, il peut quoi faire, si le problème de la jeunesse n'est pas le problème de l'État. Ce n'est pas le problème des affaires sociales. Ce n'est pas le problème du Parlement. Ce n'est pas le problème du budget. Ce n'est pas le problème de la police.
ce n'est pas le problème de la présence de la République. Ce n'est pas le problème de la vision de la société. Le général Oléko peut tout faire. On peut lui donner le budget qu'il faut. Si on ne se penche pas sur la réflexion du type pédagogique d'âme, si nous posons la question aujourd'hui à notre gouvernement, à nous-mêmes, quel est le type d'homme, quel est le type pédagogique d'homme que nous voulons fabriquer, il n'y aura pas de réponse. Pauvre société congolaise, dites-moi, n'est-ce pas, dites-moi la qualité de votre jeunesse, mon ami. Je vous dirai la qualité de votre démocratie. Dites-moi la qualité de votre gouvernement à ce sujet. Je dirai la qualité de votre démocratie. Dites-moi la qualité de votre armée. Je vous dirai. Alors, quand un bourgmestre se plaint, quand le ministre des Affaires sociales se plaint, quand nous nous plaignons, quand la famille se plaint, mais écoutez, soyons sérieux. C'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe musicien qui l'a dit.
Professeur Kambaye, à un moment, on a vu le ministre de la Justice appliquer la solution qui consistait à envoyer ses délinquants dans différentes prisons en province, en Nginga, Boulouo, Kafela, Osio. C'est une solution durable.
Mais comme pour mon ami le général Oléko, que je connais bien, les efforts de mon collègue, distingué collègue, n'est-ce pas, le ministre Luzo Lubambi. Parce que ça porte son vin, mon ami. Il a une très bonne volonté. Mais si cela n'est pas encadré d'une politique sociale, comme notre ami
Al-Kipenge
l'a dit, si cela n'est pas accompagné d'une politique de l'État, l'État, n'oubliez pas, c'est l'agent de la nation. Et l'État égale ici versus gouvernement. C'est pour cela que nous avons élu le gouvernement. C'est pour s'occuper de nous. Et s'occuper de nous, c'est évident. Dans un premier temps, s'occuper de la jeunesse, s'occuper des familles. Les efforts seront également vains si l'ensemble, on ne se trouve pas dans un contexte de vision, de visionnaire. Prenez le cas de notre gouvernement. Du plus haut au plus bas, la société congolaise est orpheline de ses dirigeants. D'où le phénomène, je dis bien phénomène. Et le mot phénomène signifie un maelstrom difficilement explicable, complexe et compliqué. Vous comprenez ça? D'où il faut se pencher sur la société, comme nous venons de le dire sur ce plan.
Professeur Yaouidi, il y a des auditeurs qui proposent leur solution. Joël Bongo-Longondo dit « Les conditions de vie étant précaires, le gouvernement peut créer une société de gardiennage et recruter tous ces jeunes désœuvrés. » Fidan, lui, dit de Bruxelles en Belgique « Je veux que la police de notre pays soit organisée comme on le voit ici en Belgique. Ils sont là à tout moment dans des avenues. Notre police doit cesser d'être complice de ces jeunes gens et les traquer correctement. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de ces solutions?
Malheureusement, parmi les solutions qu'on évoque, vous savez, nous sommes là en face des troubles de comportement. Malheureusement, on ne cite pas les psychologues. Et parce qu'il y a un problème de comportement.
Heureusement que c'est pour ça que
nous avons... Mais il faut envoyer ces jeunes adolescents drogués au Kuluna, à Ekafela, à Boulou. Vous n'associez pas les psychologues pour les récupérer. Psychologiquement, on ne fera absolument rien. Il n'y aura pas de solution durable. Dans notre pays, chacun est content de ce que lui-même fait. Ce que l'autre fait, il n'est pas content de ça. On n'a pas besoin de l'autre. On a besoin que de soi-même. Mais dans cette affaire, on doit avoir besoin de spécialistes. Et les spécialistes sont là pour que réellement ils apportent les rapports dans la solution que nous sommes en train de chercher. Vous entendez le général Oléko, que je respecte bien, il cite la police, il cite la justice, mais il ne parle pas de ce qui, des spécialistes de comportement qui existent. Alors, ignorer ces gens-là, c'est-à-dire laisser que les choses de la solution ne puissent pas être trouvées. Mais faire en sorte que, lorsque nous disons nos prisons doivent être des centres de rééducation, cela veut dire qu'il doit y avoir des spécialistes de comportement pour s'occuper de ces gens-là.
Professeur Yaoui, concrètement, si on vous amenait un Kuluna, quelle est la démarche psychologique, hein? Je sais que c'est au cas par cas, mais juste à titre illustratif.
Mais je vous ai dit que c'est une réaction au conditionnement négatif du milieu. Je vous ai donné des exemples. J'ai dit qu'un enfant qui se rend à l'école, 16 ans, il arrive à l'école, on dit que monsieur, on le chasse. On dit qu'il ne peut pas entrer à l'école, qu'il ne peut pas étudier. Pourquoi? Parce que ses parents n'ont pas payé les frais d'études. Il rentre à la maison et il demande les frais d'études, l'argent auprès de ses parents. Celui-ci, son père, lui dit, je ne suis pas payé. Et même s'il doit être payé, c'est de manière irrégulière et parfois un salaire qui ne peut même pas lui permettre de payer les frais scolaires de cet enfant. Déçu, déception, frustration. Mais devant des éléments qui sont à la base de frustration, on doit se chasser les autres. Pourquoi devons-nous chasser les enfants qui vont à l'école les chasser? Pourquoi devons-nous les chasser? Pourquoi devons-nous continuer à les chasser? Qu'est-ce que nous entendons de notre comportement de chasser quelqu'un qui vient pour étudier? Pourquoi est-ce que les parents doivent être démunis pour ne pas arriver à s'occuper de son enfant? Pour quelle raison? Alors, trouvons des solutions à ce, déjà, à ce niveau-là. Et si, lorsque dans un autre contexte, lorsque nous sommes en train de réfléchir pour dire, lorsque nous voulons réellement changer le comportement de quelqu'un, il faut utiliser trois axes. Le premier axe, c'est l'information, la sensibilisation. Deuxième axe, c'est l'application la plus forte de la loi. Vous voyez, on arrive à l'arrêter. Les parents, puisque il ne faut pas comprendre le Kuluna et l'enfant de la rue. L'enfant de la rue a quitté et en rupture. Le Kuluna vit avec sa famille, son père vivant, sa mère est vivante. Et vous allez voir les parents aller plaider la cause de l'enfant pour dire que laisser cet enfant, il faut qu'il rentre avec nous au niveau de la famille. C'est les parents qui assistent impuissant devant le comportement de leur fils et ils plaident la cause de ce fils-là. Alors donc, il faut une application la plus forte de la loi. Troisième acte, c'est le traumatisme.
C'est-à-dire,
traumatiser. Il faut réellement mettre cet individu, celui qui vient de tuer, celui qui vient de blesser, dans des conditions où il doit se dire, la prochaine fois, je ne dois pas blesser.
Al-Kitenge, en Europe, on va souvent dans des quartiers difficiles. Le sport figure parmi les solutions dans des quartiers assez compliqués dans des banlieues.
Et bien sûr, les sports sont des filières de récupération des jeunes en rupture de société. Simplement parce que au sport, nous avons quelque chose de très particulier, une hiérarchie très sévère. Vous savez, quand vous êtes par exemple au karaté ou au judo, quand vous êtes d'une ceinture supérieure à celle de l'autre, vous avez de l'autorité sur la personne. Et quand un jeune homme arrive et qu'il comprend déjà que la seule chose dont il pensait qu'il avait le monopole, a des vrais spécialistes, que la force n'était qu'une composante de l'efficacité, qu'il y a la technique, il y a la connaissance, et que la psychologie joue, et qu'il est en face de vrais professeurs, il y a véritablement moyen d'adoucir sa rancœur, d'adoucir sa méchanceté, et convertir son énergie en énergie positive. Mais ça, encore une fois, ça doit faire partie d'un plan de l'État. Mais maintenant, je vais quand même revenir sur des petites choses assez particulières dans la ville de Kinshasa. Je pense qu'il y a des solutions. Kinshasa aujourd'hui est en surpopulation. Quand vous regardez le nombre de personnes qui est ici, le nombre de logements que nous avons ici, il y a un vrai problème. Il faudrait donc se doter d'une politique de désengorgement. Il faut inciter les gens à quitter la ville par des incitatifs positifs dans les provinces avoisinantes, en l'occurrence le Bandundu, le Bas-Congo et l'Équateur. Il faut investir intensément dans ces trois provinces pour inciter certaines personnes qui sont dans la ville de Kinshasa à aller trouver mieux ailleurs. Mais en fait, il faut d'abord leur donner la possibilité de découvrir ce mieux ailleurs. Deuxième chose, la ville de Kinshasa elle-même. Il faut la densifier, la réorganiser. Vous savez que notre ville n'a même pas un plan d'urbanisation. Au point que n'importe qui construit n'importe comment, et notre argent, nous le dépensons à essayer de couvrir les érosions. Eh bien, mon cher ami, les érosions, on ne les couvre pas. On les évite par un plan d'urbanisation. Et aujourd'hui, lorsque vous entendez dans les communes où il y a des érosions, les érosions sont des points de ralentissement, et quand les gens sont dans ces points de ralentissement, ils sont plus faciles à être attaqués. Et je pense qu'il faut une restructuration de politique et de vision générale, et là-dessus, la ville de Kinshasa n'a pas beaucoup de chance que d'essayer de se moderniser. Kinshasa est un gros village, Kinshasa est extrêmement mal organisé. Il faudrait que Kinshasa se réinvente. Vous savez, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes est la conséquence de l'état de la situation dans laquelle nous vivons. Vous savez, la police doit se mouvoir rapidement. Il y a des points où elle ne peut même pas entrer. Il y a des endroits où la police ne peut pas circuler avec un véhicule. Simplement parce que il n'y a pas de place pour faire des manœuvres, il n'y a pas de place pour passer. Et donc, il y a un grand travail à faire. Il a un fond sous bassement. Malheureusement, les questions économiques et financières, d'ailleurs les professeurs l'ont dit tout à l'heure, si le parent n'est pas payé, s'il est mal payé, si vous voulez qu'un professeur de sport s'occupe correctement des jeunes gens, il faut le payer. Donc il y a un véritable soubassement économique et financier.
Voilà, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Professeur Kambay, nous voyons dans la ville de Kinshasa, il y a des acteurs politiques qui récupèrent certains de ces jeunes, qui les mettent dans des centres de formation comme à l'INPP, des métiers, ça figure une fois de plus parmi les solutions.
C'est un pas, il faut féliciter ce genre d'action, et encore une fois, à ce niveau. Mais en profondeur, mon ami, autour de cette table, nous avons soulevé des problèmes importants, mais tous ces problèmes tournent autour de la gestion de la société, et encore, maintenant même, on vient de parler de la réinvention de la société. Mon ami, nous n'avons pas, je ne vais pas vous poser la question, je vous pose vous-même la question. Les Congolais en général, les Chinois en particulier, n'ont pas l'impression que la jeunesse fait partie des préoccupations de l'État. Nous n'avons pas l'impression que le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales fait de la société, famille, jeunesse, son affaire. Mais il faut voir l'éducation parascolaire, les églises, mon Dieu, ma foi, les médias. Vous pensez-vous réellement, nous ne pensons pas que les médias font leur travail. Combien de chaînes télévision éduquent? Combien? Nous sommes dans la musique, vous appelez ici, musique danse. Vous appelez là-bas, musique danse. Vous appelez ici, musique danse. Tout cela. Alors, on parle de Kuluna comme si c'était tragicomique, on rigole, Bandeko, Maouin, Tandir Basalier, Pakakie, Aimbokoye, Baby.
Professeur, je vais te demander de conclure déjà parce qu'en moins d'une minute, l'émission va prendre place.
Vous me demandez de conclure, comment est-ce qu'on peut conclure, n'est-ce pas, une émission aussi importante ou pas?
Aussi intéressante.
Oui, voilà. Aussi intéressante. Je conclue simplement pour dire que une société, n'est-ce pas, a besoin d'être prise en charge. Et les personnes qui doivent prendre en charge s'appellent le gouvernement.
Merci, professeur. Professeur Yawidi,
oui, je répète ce que j'ai dit auparavant au début de l'émission. Dieu a créé l'homme à son image. La société congolaise a créé les Kuluna à son image. Et nous devons d'ailleurs être contents des Kuluna. Parce que il réagit au conditionnement négatif lié par l'agressivité. Mais il y a des résiliens. Des gens qui disent que c'est comme ça, la Yessou Sonini, base de l'attaque à Mokolango et Zali. Vous voyez, ils sont plus dangereux que les colonnes que nous voyons en train de réagir directement avec la machine. Parce qu'elles, on peut les maîtriser. Mais ceux qui ne réagissent pas, des résiliens, ils sont très dangereux. Et ils sont nombreux plus que les colonnes. Donc, ils se posent un autre problème de la gestion de notre société.
Al-Kitenge.
Accra a connu le même problème dans les années 80
au Ghana.
La solution, c'est la fermeté de l'État, mais en tout cas une augmentation intensive de la production de la richesse afin d'absorber les malheurs et les convertir en bonheur et diminuer la tension de la société. Je crois simplement que ce pays a tellement d'atouts économique, que nous avons les moyens de pouvoir attirer ici des investissements, être en mesure de créer des emplois et avoir de quoi gérer ce pays.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Merci à vous chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. Merci à Paul Badianema, Guy Maté, Samuel Katsak, Martin Sebouizangwe qui a supervisé cette émission. Coordination et présentation, Alain Irung, au revoir.